بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفاء الإسلام نرمي الله عز وجل qui nous donne le tawfiq, la possibilité de donner un peu de temps pour apprendre notre din. Après avoir accompli le pilier de l'islam qui est la salah, alhamdulillah, nous sommes réunis pour apprendre un peu plus concernant les aqaïd, concernant les croyances du musulman. Et on avait commencé depuis plusieurs mois avec les signes, ashratu sa'a, les petits signes de qiyama, ensuite les grands signes de qiyama. Et donc ce soir, inshallah, c'est avec, j'allais dire, beaucoup de plaisir que nous retrouvons nos chers Gog et Magog, pour en finir une fois pour toutes, Inch'Allah. Donc c'est ce qui devait être le dernier programme sur Ya'juj et Ma'juj la dernière fois, n'a pas pu se concrétiser. Et donc on a remis, on a donné un peu plus d'espoir à Gog et Magog. On les a accordés encore un mois et demi. Et ce soir, Inch'Allah, c'est la mise à mort définitive de Ya'juj et Ma'juj. Par la grâce d'Allah, Azza wa Jal, on était absent pendant quelques temps également. Allah Rabbul Izza nous a donné la possibilité de visiter Baytullah al-Haram, d'être près de la Kaaba et d'aller visiter la masjid de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en passant près de la tombe du prophète alayhi salat wa sallam pour le ziyara, pour faire les salutations sur le prophète bien-aimé, vous savez ce qui se passe dans le cœur du croyant en ce moment? Quand il se dit que bi'idhnillah, pendant toute l'année, on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant toute l'année, on défend le dîn d'Allah azza wa jal, on propage. Mais on propage quoi? On propage les paroles de cet homme. Et là, quand on a la possibilité d'être en face de lui, avec la conviction qu'au moment où on va lire salatu wa salamu alayka ya Rasulallah, Allah azza wa jal donne la possibilité au prophète alayhi salatu wa salam de répondre au salam de chaque personne présente, je vous assure qu'il y a des frissons qui passent de le corps. Parce qu'on se dit qu'en fait, notre vie, c'est quoi? C'est chaque croyant qui aime sa religion, de différentes façons, à son niveau. Le alim, le savant, ce sera par le biais de la science religieuse. Maintenant, le croyant, le musulman, qui n'a pas forcément fait des études de sciences religieuses, mais présent sur les forums, présent sur Internet, ou dans la vie, dans sa vie, dans son travail, quand il y a nécessité de défendre la position de l'islam, il répond toujours présent. Lorsqu'il y a des attaques, lorsqu'il y a des fausses idées qui sont véhiculées, il est toujours là pour prendre la défense, chacun à son niveau. Le savant avec un peu plus de compétences techniques, on va dire, celui qui n'a pas le ilm, à son niveau, mais tous les deux avec la même sincérité, oui ou non? Et peut-être parfois celui qui n'a pas le ilm, il peut être plus sincère encore. Quand il défend son dîn, c'est avec un amour, c'est presque quelqu'un désarmé, mais qui dit que non, je ne peux pas laisser ça. Et de l'autre côté, on peut avoir le savant qui, mashallah, il a la connaissance du Coran, du hadith, il a plus d'arguments pour contrecarrer tout ce qui est véhiculé comme idée. Mais qu'est-ce qui anime le cœur de chaque croyant qui se fait du souci pour sa religion et qui est prêt à prendre position quand son dîn est atteint? C'est l'amour pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui ou non? Quand on entend parler des histoires des caricatures, ou même si on lit quelque chose qui a été écrit contre Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la réaction première du croyant? Qu'on soit, mashallah, super pratiquant ou peu pratiquant, pratiquant saisonnier, pratiquant ramadaniste comme on dit, rien que dans le mois de Ramadan ou au Jumu'a on est là. Mais malgré ça, quand quelqu'un entend une personne porter atteinte à l'intégrité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, immédiatement il y a une réaction. On se dit qu'on ne peut pas laisser ça passer et on essaie de rectifier, on essaie de d'écrire ou de répondre, et ainsi de suite. Tout ça, ça prouve que dans le cœur du croyant, il y a l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour encourager, s'il y a des gens dans notre assemblée qui n'ont jamais eu encore cet honneur d'aller à Makkatul Mukarrama et à Al-Madina Nabawiyya, et quand on est à Al-Madina de rendre visite à la tombe du prophète alayhi salatu wassalam, ressentir ce frisson quand on passe près de la tombe du Nabi et savoir qu'il répond à notre salam, c'est vraiment le moment de faire le niya. Si quelqu'un n'a pas eu l'honneur d'y aller, c'est vraiment l'occasion de demander à Allah Azza wa Jal de nous choisir pour aller vers les lieux saints D'autant plus qu'on est au mois de, on est à la fin de Rajab, d'accord? On entame Sha'ban, on est dans les mois sacrés, et bientôt le Hajj va arriver, et c'est vraiment le moment de faire le azm, l'intention et tout ce qui vient avec en termes d'efforts pour aller accomplir ce pilier pour celui qui n'a pas encore eu la possibilité de le faire. Et également, après avoir donc rendu visite à la tombe du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite les sahibain, Abu Bakr et Umar. Abu Bakr et Umar, c'est, subhanallah, c'est le sujet principal du Musabaqa, le concours Hajj donc, qui a commencé depuis, hein, depuis deux semaines à peu près. On parle essentiellement d'Abu Bakr, de Umar, de Uthman, de Ali, de leurs fils, de leurs descendants et de leurs petits-fils. Et donc, subhanallah, quand on passe près de la tombe d'Abu Bakr et de Umar, on dit, on fait les salutations également, on se dit que, subhanallah, on a là les meilleures personnes de l'humanité. Et ça fait quand même quelque chose. Et ensuite, et là ça rejoint pour raccrocher avec le programme du jour, sachant qu'on parle essentiellement de Jésus, de Isa alayhi salam, on se dit, on a la conviction que dans les textes, il est précisé qu'il y a un endroit pour Isa alayhi salam. Donc on se dit que subhanallah, hein, cet homme qui viendra à la fin des temps, il aura certainement sa place à cet endroit. Et Isa alayhi salam, c'est l'homme clé. Excusez-moi, j'ai dit c'est l'homme du match. Non, c'est l'homme clé de la fin des temps. Et si on a retenu un petit peu les récits concernant le voyage nocturne, même si maintes et maintes fois, nos collègues également disent que ce n'est pas une tradition que de parler du voyage nocturne 27e, mais c'est quand même des choses qui sont bonnes à savoir. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a conversé avec les Anbiya, avec les prophètes lors du Isra, c'est-à-dire lors de la première partie du voyage nocturne, à quel endroit? Première partie du voyage nocturne, ils sont arrêtés à quel masjid? La masjid de Aqsa, subhanalladhi asra bi'abdihi layla minal masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa. D'accord? Au masjid Aqsa, lorsqu'il a rencontré les prophètes alayhi salat wa salam, ils ont eu des échanges. Ils ont eu une conversation. Comme on l'expliquait dans le programme, on dit que quand vous êtes affecté par une nouvelle ou par une situation difficile, d'accord, Allah protège. Hein? Imaginez quelqu'un qui perd un enfant. Quelqu'un qui perd un enfant. Hein? Son fils, sa fille est décédée. D'accord. Auprès de qui il va trouver réconfort? Auprès de sa famille, ses proches, certes. Mais avec qui les échanges seront plus profitables? Avec quelqu'un qui a connu la même douleur. Quand quelqu'un a perdu un homme, après 50 ans de mariage, perd sa femme, son épouse est décédée. Est-ce qu'il va se confier à un jeune de 15 ans, 16 ans? Non. Le jeune va essayer de l'encourager, mais ça va s'arrêter à là. Mais s'il a quelqu'un d'autre qui a perdu son épouse, qui est veuf depuis 2 mois, 3 mois, ben, c'est avec ce genre de personne qu'il pourra vraiment échanger et ils vont se comprendre. Ça, c'est une image. Hein? Quand le prophète alayhi salat wa salam subit depuis qu'il est prophète, et on connaît la sira, d'ailleurs il faut qu'on en discute, on va peut-être changer de mawdou, hein, qu'on aura fini avec les grands signes de qiyam, parce qu'on a presque terminé aussi. Quand le prophète alayhi salat wa salam, depuis qu'il est prophète, les gens le traitent d'imposteur, de menteur, et pire encore de sorcier. Il n'y a rien de pire à cette époque que d'être traité de sorcier. Aujourd'hui, si on dit quelqu'un, par exemple, quelqu'un vous fait, comment il vous brûle la priorité, il dit pas sorcier, va. Il va rire, c'est pas une injure de nous jouer à sorcier. Mais à l'époque, sorcier, j'expliquais ça dans notre programme, quand on dit sorcier, de nous jouer, c'est l'équivalent de terroriste. Le terroriste, c'est qui? C'est quelqu'un qui porte atteinte à votre personne, à vos proches, à des innocents. C'est quelqu'un qui fait du mal à la société, oui, non? Ouais. Le sorcier, à l'époque, c'était pareil. À notre époque aussi. Mais avant, le sorcier, c'est celui qui causait du tort aux gens. Donc, quand on traite quelqu'un de sorcier, on pourrait dire que c'est la pire des insultes. Et donc, le prophète Ali, salatu wassalam, a le cœur blessé, a le cœur meurtri. Et les ulama de Sira disent également qu'il n'y a rien de plus accablant pour une personne que d'être aimé par des gens pendant longtemps, d'être estimé par des gens, et du jour au lendemain se voir insulté par les mêmes personnes. Différent une personne qui va prêcher dans un endroit et on l'accueille mal, on l'insulte, on ne l'accepte pas, c'est moins lourd c'est moins lourd sur le cœur de cette personne que celui qui était aimé par son peuple et du jour au lendemain se voit insulté et rejeté. Ce qui était le cas de le prophète alayhi salat wa salam. Quand il a annoncé la prophétie, les gens se sont mis à l'insulter. Alors qu'avant, il était surnommé comment ? Quel était le surnom du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Hein ? Le véridique. En arabe, ça se dit Al-Amin. Le véridique. L'homme de confiance. Connais l'histoire de la reconstruction de la Kaaba, replacer la pierre noire. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le référent. Il n'était pas encore prophète à l'époque. C'était l'homme le plus aimé, le plus apprécié de Makkah. Et si quelqu'un est aimé à Makkah, on pourrait dire qu'il est aimé dans toute la péninsule arabe. Parce que Makkah, c'était le point de convergence de toutes les tribus arabes. D'accord ? Et du jour au lendemain, on l'insulte. Et les savants disent également, pour comprendre la douleur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il n'y a rien de plus accablant, de plus terrible pour quelqu'un que de se faire rejeter par sa propre famille. Quand c'est un étranger qui vous dit des vilaines choses, passe dessus. Mais quand c'est votre tonton, quand c'est votre oncle, ça c'est terrible. Et vous savez, chez les Arabes, l'oncle avait presque le même rang, la même valeur que le papa. D'autant plus que le prophète alayhi salat wa sallam n'avait pas de papa. Donc théoriquement, c'est le tonton qui prend la place du père. Pour les Arabes, l'oncle, c'était presque comme le père. Et quand le prophète alayhi salat wa sallam prêche les tribus arabes, maintenant il est devenu prophète, il prêche les tribus arabes qui viennent au Hajj, on est pas dans la période mikwaz, son oncle Abu Jahl, lui il invite vers l'islam, et par derrière l'oncle Abu Jahl dit ne l'écoutez pas, c'est quelqu'un qui est comme ci, comme ça, c'est un menteur, il ne faut pas l'écouter, c'est un imposteur. Donc les savants disent, voyez quelle était la douleur du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis la première année de la prophétie. Al-Amin devient Sahir Kadhib et ainsi de suite. Et la douleur va s'accentuer à la perte de Khadija radiallahu anha. Et la douleur va s'accentuer également avec la perte de Abu Talib, son oncle, qui était également la personne qu'Allah avait mis sur son chemin pour le protéger des adha, des insultes, pas des insultes, des persécutions, des atteintes physiques des Quraysh. Il perd les deux êtres qu'il aimait le plus, qui étaient le plus proche de lui et qui lui apportaient le plus. Dans ce moment de difficulté, Allah Azza wa Jal accorde à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ce cadeau qui est le voyage nocturne. Donc, la première partie est l'al-Masjid al-Aqsa, elle rencontre les prophètes et la conversation entre eux. Et comme on l'a dit tout à l'heure, donc, c'est en conversant avec les autres prophètes, les savants disent, c'est là qu'ils trouvent la sakina, la tranquillité du cœur, l'encouragement. Parce qu'il voit les autres anbiya qui ont tous connu les mêmes difficultés que lui. Y a-t-il eu un prophète qui, lorsqu'il a annoncé sa prophétie, a été accueilli à bras ouverts ? La wallah. Ça c'est sunnatullah. C'est la sunnat d'Allah que celui qui prêche, celui qui invite vers la vérité, connaît des difficultés. Ça c'est au niveau des croyants basiques. Alif lam mim ahasiba an-nas wa in yutraku. Hein ? أن يقولوا آمنا وهم حذيفة وهم لا يفتنون. Ça c'est la sunnah d'Allah. Quand on proclame la vérité, quand on va dans le droit chemin, il y a les fitna. Et fitna, il y a deux catégories de fitna. ونبلوكم بالخير وشر الفتنة. Il y a les fitna qui sont bons, les fitna qui sont mauvais. Donc là, quand la personne va vers le droit chemin, c'est une épreuve, mais c'est une bonne épreuve. Maintenant, que dire le niveau d'un prophète? La fitna concerne chaque croyant quand il va vers la vérité. Quand par exemple quelqu'un était dans le péché, dans l'alcool, dans le zina, l'adultère, dans des choses haram, et qu'il décide de revenir vers Allah avec sincérité. Et quand on dit de revenir vers Allah, non, c'est pas revenir vers Allah dans Ramadan comme tout le monde le fait et puis on vient et puis ça va. Non, c'est vraiment avec sincérité, sans juger ceux qui viennent, bien sûr, certainement ils sont sincères. Mais vraiment avec un mujahada, avec un effort. Abandonner l'alcool, c'est dur. Abandonner les stupéfiants, c'est pas facile. Quelqu'un qui comprend que le fumer, c'est haram, je le dis, et il décide pour qu'il fasse ses efforts pour l'arrêter, soit si c'est quelque chose de difficile. Mais quand quelqu'un fait des efforts dans le droit chemin, il y a des difficultés. Combien de fois on a vu des gens, bismillah, se convertir à l'islam, et il dit que, oui, mais c'est pas facile, hein. Il dit que la conversion se... Il lit la shahada, mais après le retour de la famille, de la belle famille, les gens, les collègues, il dit vraiment il faut être ferme. Ça c'est normal. c'est la sunna d'Allah quand on revient vers lui. Maintenant, que dire le niveau d'un prophète? Les épreuves des prophètes étaient toujours plus accablantes que les épreuves des croyants. Et donc, en rencontrant, on s'attarde un peu sur le miraj, ce n'était pas le but, du coup on donne un peu de suite, encore il y a Ajuj et Ma'juj. En rencontrant tous les Anbiya alayhim salatu wassalam, on appelle ça une tasliya. C'est comme c'est un réconfort pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de voir le parcours de toutes ces pères, de tous ses frères. Parce que le prophète m'a dit que les Anbiya sont des frères. Tous ces frères qui sont passés avant lui et qui ont connu les mêmes difficultés. Et il voit que lui, et que toutes ces personnes vont l'accepter, c'est pas le terme, vont le reconnaître comme étant le imam. Parce que c'est lui qui va officier la salah. Encouragement, reconnaissance, valoriser. Tout ça, c'est des cadeaux qu'Allah lui accorde depuis le dunya à Masjid Aqsa. Ensuite, les cadeaux de l'au-delà, le reste, on a écouté certainement comment les anges vont le souhaiter, la bienvenue, vont être fiers de l'accueillir. Ce voyage nocturne était attendu par les gens des cieux, les gens de la terre et par les gens des cieux également. C'était, excusez-moi l'expression, c'était le tapis rouge qu'on a déroulé, si on pourrait dire comme ça, pour accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle transition avec la situation qu'il vit avec les polythéistes de Mecca. Vous voyez comment c'était un cadeau magnifique. Et donc à ce moment, on revient donc, on peut le rattacher avec notre programme, conversation sur les signes de Qiyam. Et là, nous voyons le ilm que le prophète alayhi salatu wassalam a eu de la part d'Allah azza wa jal, qui dépasse tout ce que les autres prophètes avaient. C'est celui qui avait le plus de ilm. Et là, il faut comprendre qu'on doit être fier d'avoir cet homme comme prophète, parce qu'on a eu le meilleur des prophètes, le plus grand savant de la création, le plus grand alim parmi les anbiya alayhi salatu wassalam. Et la deuxième personne qui avait un peu moins de ilm, mais un peu plus que les autres concernant les signes de la fin des temps, c'était Isa alayhi salam, le prophète Isa alayhi salam, parce qu'il va vivre, lui, ses grands signes. Il est un acteur principal dans la présence d'Al-Mahdi, acteur principal lorsque l'Antéchrist apparaît, Al-Masih al-Dajjal, il est un acteur principal lorsque les Ya'juj, Ma'juj, Gog et Magog vont déferler et semer le trouble à travers le dunya. Donc, quand on parle de la fin des temps, ça nous rappelle tout ça. Ça nous rappelle l'emplacement de la tombe de Isa a.s. selon la vie de certains savants, certaines versions. Ça nous rappelle également ce voyage nocturne. Donc, tout ça, ça se rejoint. Et donc, on arrive à cette situation où on ne va pas revenir, on ne va pas faire encore de flashback sur ce qu'on avait fait la dernière fois. Ya'juj, Ma'juj ont eu l'autorisation, on avait beaucoup insisté, je suis en train de réécouter le programme de la dernière fois pour voir ce qu'on était arrivé, on avait bien insisté sur le fait que ce sont des créatures dotées d'une force extraordinaire et qu'ils auraient pu normalement envahir le dunya quand ils le voulaient. Mais tout dépend de la volonté d'Allah. C'est quand Allah leur donne l'autorisation d'envahir ce dunya qu'ils envahissent le dunya et pas avant. Tout comme Al-Masih al-Dajjal, lorsque les Sahaba, ces personnes, ils ont rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam avoir vu en mer, sur une île perdue, une créature étrange. Il a donné la description. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça, c'est l'antéchrist, c'est Dajjal. Connaissant la force de Dajjal, quand on a vu les miracles qu'il est capable de faire, est-ce qu'il n'est pas de son potentiel normalement de se déchaîner dans les deux sens du terme et de commencer son fitna sur le dunya? Bien sûr que oui. Mais tout est une question d'autorisation, d'ordre d'Allah Azza wa Jal. Les créatures, aussi puissantes qu'elles peuvent être, l'antéchrist, pour ça me dit, il n'y a pas eu de plus grand fitna que le fitna de Dajjal. Il y a Ajuj, Ma'juj, une race que Allah Azza wa Jal a interdit de combattre parce qu'ils sont trop puissants, trop forts. C'est même pas comme quand il y avait 300 personnes à Mecca, 300 musulmans et 900 face à Badr, ou à Uhud, toujours trois fois plus. Et les autres combats, les autres batailles où les mécréants étaient plus nombreux, mais qu'Allah Rabbul Izzah a encouragé les musulmans à se défendre, à rester ferme face à l'ennemi qui les attaquait. Là, c'est une situation différente. Face à Ya'juj, Ma'juj, et il me semble qu'on a vu le hadith la dernière fois, que le prophète alayhi salatu wassalam a annoncé que Allah azza wa jal a envoyé une créature Et Allah a que personne ne peut combattre. Et l'ordre est donné à Isa alayhi salam. Ça aussi, il me semble qu'on a vu la dernière fois. L'ordre lui est donné parce que c'est lui le Amir. Oui, non. À cette époque, après la mise à mort de Dajjal, c'est Isa alayhi salam qui a tué Dajjal. D'accord ? Là aussi, une petite parenthèse, une petite touche de Muhabba à l'attention de ceux quand ils disent que Jésus, et ainsi de suite, la notion d'amour, certes. Mais à la fin des temps, les règles ont changé. À la fin des temps, Isa, lorsqu'il revient, il revient au sein de la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il y a bataille, il répond présent et il assume son rôle de qaïd, de chef. Et il l'assume de façon brillante. Et voyez, il passe, subhanallah, avec Imam Mehdi. Quand il y a le relais, il prend le khilafa, il prend le relais avec Imam Mehdi, il devient comme un père pour les croyants. Il va les encourager. Vous vous souvenez du hadith? Il passe sa main bénie sur la joue de ses croyants. C'était les gens les plus valeureux qui sont restés fermes. Et il les encourage et il dit qu'Allah vous a réservé tel daraja, tel degré de le Jannah. C'est un homme bon, rempli d'amour, qui va encourager les croyants qui ont connu des difficultés contre Dajjal. Il devient ensuite un chef d'armée pour une lutte ferme sans merci contre l'Antéchrist. Et il va mettre à mort Dajjal par sa propre main bénie, par sa main Mubarak. Allah décide que c'est Isa qui va tuer l'Antéchrist. Ça, on a vu la dernière fois. Il devient ensuite un qaïd. Il devient ensuite un lieutenant, on va dire, un amir, un commandant, qui va protéger maintenant son peuple. Avant, il était le guide qui les amenait à combattre l'Antéchrist. Maintenant, il aura un rôle de protecteur. Il va faire en sorte d'essayer de protéger la vie de chaque personne, de chaque croyant, parce qu'il reçoit l'ordre de la part d'Allah Azza wa Jal d'amener les croyants vers les montagnes. D'amener les croyants vers les montagnes, et en tant qu'il y avait une montagne de Palestine où il amène les gens qui sont avec lui, parce que cette créature-là, il est interdit de les combattre par rapport à leur force. Donc, malgré cette force de Gog et Magog, ils ne peuvent rompre le mur sans l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et on avait vu la dernière fois, quand ils disent Inch'Allah, là Allah leur donne la possibilité, et on avait donc insisté sur la qudrat d'Allah, que tout est lié aux décisions d'Allah Azza wa Jal, et c'est un enchaînement qu'Allah a prévu dans la destinée de la création, parce que c'est un enchaînement qui va amener vers la disparition, à un moment donné, du din de ce dunya, après qu'il y aura l'apogée. Tout ça, c'est l'organisation d'Allah Azza wa Jal. L'apogée, c'est l'après Gog et Magog. C'est la vie à l'époque de Jésus, de Isa alayhi salam, quand il est vivant, jusqu'à ce qu'il meure. Et après, c'est la catastrophe. Après, c'est le cataclysme. Après, il y a la perte de iman. Après, c'est des situations invivables. Et puis, il y a ce qu'on verra par la suite, indithar al-islam. La disparition de l'islam, non pas vaincu par les ennemis, mais par décision d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il ne faut plus qu'il y ait de croyants. Disparition des croyants. De quelle façon les croyants disparaissent? Est-ce qu'ils sont tués par les ennemis? Non, ça aurait été une défaite. Le dunya ne peut pas s'éteindre avec la défaite des musulmans. Non, le dunya s'éteint par une mort douce de chaque croyant, par cette brise qui va reprendre le ruh de chaque croyant. Et d'autres signes, on verra par la suite le Coran qui est repris par Allah, la Kaaba qui est repris par Allah, tout ce qui est saint, tout ce qui est muqaddas, afin qu'il ne reste plus que shirarul khalq, les pires des créatures, afin que la destruction de la fin du monde s'abatte sur ces gens-là et qu'il n'y ait plus une personne qui a la pensée d'Allah dans son cœur. Donc, on revient. Qu'est-ce qu'ils vont faire, Ya'juj wa Ma'juj? Il est dit dans les hadiths, hadith Tabari, Allahu Akbar, fayasiruna ila kharabi ad-dunya. Ils vont se mettre à détruire le dunya. Et ils vont passer par différents fleuves et là boire l'eau des fleuves. Il y a Al-Furat, Dajla et Buhayra al-Tabariya. Ces trois endroits, ils vont semer le désordre sur leur passage. À chaque fois, je dis, j'aurais dû amener une carte. Encore une fois, je ne l'ai pas fait. Vous pourrez la prochaine fois peut-être voir où se trouve le Frat et ainsi de suite. Le trajet que Ya'juj et Ma'juj va suivre jusqu'à arriver à Baytul Maqdis. Quand on avait parlé de Dajjal, vous vous rappelez, on avait dit qu'il commence vers l'Iran, l'Afghanistan, ces régions. Il fait un parcours jusqu'à arriver à Cham, cette région de Cham, jusqu'à arriver à Baytul Maqdis, où il trouve la mort à cet endroit. Voyez comment Baytul Maqdis, à la fin des temps, ce sera un endroit essentiel. Et d'ailleurs, on a vu dans différentes versions que les meilleurs des croyants se trouveront à cet endroit à la fin des temps. Hadith dans lequel il expliquait également que Isa alayhi salam, lorsqu'il voit l'arrivée de Gog et Magog, yuhasiruna Isa wa man ma'ahu bi bayt al-Maqdis, ils vont encercler Isa alayhi salam et les croyants qui sont avec eux dans cette région. Donc ils vont dans cette direction. Et dans, en fait, il y a tellement de hadiths, il y a des fois où je ne les retrouve plus, c'est dans les livres où j'écris, dans une montagne qui est dans cette région. Donc le point essentiel, le point de chute de Ya'juj et Ma'juj, c'est d'aller vers Baytul Maqdis. D'autres versions, il est dit qu'ils vont détruire tout ce qu'il y a de ce dunya, et là, à l'exception de ceux qui sont partis dans les endroits surélevés. Pourquoi? Je ne sais pas. Wallahu a'lam. Ça veut dire qu'ils ne savent pas grimper, on ne s'avance pas. Mais Allah, ça veut dire, lorsqu'il ordonne à Isa d'amener les croyants dans des montagnes, c'est-à-dire que quand il y a un endroit surélevé, dans ces endroits-là, Gog et Magog ne peuvent atteindre les personnes. Et là, justement, il y a le hadith, je crois qu'on avait expliqué, mais ce n'était pas le cas. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكْ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ عِيسَىٰ Anni qad akhrajtu ila akhir al-hadith. À ce moment, Allah Azza wa Jal, à ce moment, c'est-à-dire après la mise à mort de l'antéchrist de Dajjal, Allah Azza wa Jal informe à Isa alayhi salam que j'ai envoyé une créature contre laquelle personne ne peut lutter. Et il est dit également en commentaire de cet verset que la lutte dans le chemin d'Allah continuera jusqu'à l'arrivée de Ya'juj et Ma'juj. C'est-à-dire quand Ya'juj et Ma'juj apparaît, il n'y a plus de lutte dans le chemin d'Allah. Il n'y a plus de combat, il n'y a plus de résistance armée. Les savants disent également, voyez la nature du fitna de Dajjal. Vous vous rappelez, on avait dit une armée de près d'un million de personnes, si je ne me trompe pas. J'ai plus les chiffres en tête. Qu'on avait dit le nombre d'étendards. Et sous chaque étendard, si je ne me trompe pas, plus de 10 000 personnes. On avait dit que ça fait une armée de plus d'un million d'individus. Et ça, c'était un indice, selon moi, qui prouve qu'à la fin des temps, les combats vont revenir comme c'était à l'époque. Parce que de nos jours, il n'y a plus d'armée qui se déplace avec un million de personnes. De nos jours, 10 personnes peuvent tuer un million de personnes. On est d'accord? Avec quelques bombes atomiques, quelques missiles bien placés, et c'est fini. On peut tuer facilement un million de personnes. Il suffit d'être à 10 et d'appuyer sur les bons boutons au moment voulu. Mais non, là, il y a presque un million de personnes qui se déplacent en même temps. Ça, c'est l'armée de Dajjal. Contre Dajjal, les croyants doivent lutter et résister. Alors qu'il y a près d'un million de personnes en face. Mais contre Gog et Magog, il ne faut même pas essayer. Ça nous donne une idée de la puissance de Ya'juj et des Ma'juj. Et les savants disent également, certains savants qui rejoignent un petit peu cet avis, qu'à la fin des temps, il n'y aura plus d'armes, comme on dit maintenant, d'armes modernes et ainsi de suite, disent que, allez, même s'ils sont très nombreux, s'il y a des pays qui voulaient résister, il y a toujours des armes de destruction massive, qui savent utiliser quand c'est nécessaire contre les gens qui ne sont pas selon leur croyance. Il y a des armes de destruction massive, ils auraient pu l'utiliser. Le fait que personne ne peut anéantir, personne ne peut bloquer, ne peut empêcher l'avancée de Gog et Magog, ça montre également qu'on est à une époque où si tu veux lutter contre la personne, tu prends ton sabre, tu prends ton épée, tu prends ta lance, et quand le gars il est 5 fois plus nombreux que toi, tu peux rien faire. Alors que quand tu as une Kalachnikov, il peut y avoir 25 personnes, c'est bon, on va arroser tout le monde et puis c'est fini. Certains savants disent que ça prouve aussi qu'à la fin des temps, la lutte redeviendra comme à l'époque des prophètes, comme en temps, comme à l'époque où il n'y avait pas les moyens modernes. Donc, on va aller un petit peu plus vite, parce qu'il faut absolument terminer ce soir, Inch'Allah. La fitna de Gog et Magog, où ils détruisent tout, à l'exception de ceux qui sont dans les endroits surélevés. Maintenant, et ça on avait introduit un petit peu la dernière fois, l'erreur, pas l'erreur fatale, mais l'erreur prédestinée des Ya'juj et Ma'juj, c'est leur arrogance. Lorsqu'ils arrivent près de la Palestine, et qu'ils se rendent compte qu'ils ont tué tout ce qui s'appelait être vivant, et qu'ils ont détruit les cultures, les champs, ils ont vidé les fleuves et ainsi de suite, ils se rendent compte qu'ils ont gagné. Ils ont l'impression qu'ils ont gagné. Et c'est là qu'ils vont prononcer une parole qui va les condamner. Quelle parole ils vont dire? Si on retrouve le hadith, Inch'Allah. Ils vont dire « Thumma yasiruna ». Hatta yantahu, voilà, je cherchais le nom de la montagne. Il a Jabal al-Khamar. Cette montagne, et je ne connais pas le nom en français, c'est Huwa Shajan. Il dit que c'est un endroit qui est près de Bayt al-Maqdis. Wa Huwa Jabalun bi Bayt al-Maqdis. C'est une montagne. C'est pas Jabalun bi Bayt, il Huwa Jabalu Bayt al-Maqdis. C'est la montagne de la Masjid Aqsa. Fayaqulun, ils vont dire, laqad qatalna man fil ard. On a pu tuer tous les habitants de la terre. Halumma fal naqtul man fis sama. Allons-y maintenant, on va tuer ceux qui sont dans les cieux. Fayarmuna, et ils vont lancer leurs, qu'on appelle ça, les lances, les flèches, ainsi de suite, ila sama, vers les cieux. Et Allah Azza wa Jal va les renvoyer mahdoubatan dama, remplis de sang. Et lorsqu'ils vont voir les flèches retomber avec du sang, ils vont avoir l'illusion que na'oudhu billah qu'ils ont tué les habitants des cieux. Il y a une autre version qui me plaît également. Une version bismillah ar-rahman ar-rahim, si on retrouve. Ils vont dire ma na'lamu fil ardi ahadan illa dhabahnahu. Tous ceux qu'on a rencontrés de ce dunya, on les a égorgés. Un peuple cruel. Halummu. Allons-y, narmi man fi sama. Maintenant, on va en finir avec les habitants des cieux. Fayarmuna hatta tarji'a ilayhim sihamuhum, jusqu'à ce que leurs flèches leur retombent remplies de sang. Fayaqulun, et là, ils vont dire ma baqiya fil ardi wala fi sama. Il reste plus personne maintenant de ce dunya, de ce monde, et il ne reste plus personne dans les cieux. C'est-à-dire que nous sommes devenus les maîtres. On a tué les habitants de la terre et les habitants des cieux. Il y a d'autres versions encore, on va pas tous les citer, mais on a compris l'erreur de Gog et Magog. On avait comparé avec d'autres personnes qui ont osé défier Allah Azza wa Jalla de le passé, et comment Allah Rabbul Izzah les a détruits. Quelle est la situation? On parle de Gog et Magog, des gens qui ont été tués. Quelle est la situation de Isa alayhi salam et des croyants qui sont encerclés près de Baytul Maqdis? Dans certaines versions, il est dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, enfin, on doit jongler entre... Parce qu'on n'a pas trouvé un livre qui réunit toutes les versions. Il n'y a pas un kitab, malheureusement. Il faut constamment jongler et en plus faire le tri entre les versions qui sont les plus proches de l'authenticité. Donc, quelle est la situation maintenant des gens qui sont... Voilà, avec Isa alayhi salam, ils sont touchés par la famine. Ils sont encerclés. Yani, ils ne peuvent pas sortir, aller chasser, aller chercher à manger. À un moment donné... Les textes ne précisent pas combien de temps dure ce siège, hein, entre guillemets, mais dit qu'à un moment donné, hatta yakuna ra'su thawr li ahadihim khayran min 100 dinar li ahadikum al-yawm, jusqu'à arriver à une situation où un morceau, hein, la tête, on va dire, d'un taureau, c'est-à-dire morceau de viande, par métaphore, hein, aura plus de valeur pour une personne que 100 dinars. À notre époque, c'est-à-dire à leur époque. 100 dinars, c'était une fortune, d'accord? Dit qu'une tête de bœuf ou quelque chose qui n'est pas, on va dire, c'est pas quelque chose de premier choix non plus, mais un peu de nourriture aura plus de valeur que 100 dinars. C'est-à-dire que la situation devient préoccupante. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont demander à Isa alayhi salam d'invoquer Allah Azza wa Jal. Le qaïd, le chef d'armée, devient un homme d'une grande piété et ils savent que c'est auprès de lui qu'on doit s'adresser pour demander doua à Allah Azza wa Jal. Fayaqulu al-mu'min ya ruh Allah ud'u 'alayhim bil fana fayad'u Allah 'alayhim fayab'athu an-naghf. Allah Azza wa Jal va exaucer, ils vont demander prophète, enfin, oh Ruhullah, c'était son surnom, mais il n'est pas prophète à ce moment-là, demande, invoque Allah Azza wa Jal qu'il détruise ses créatures, et Allah Azza wa Jal va exaucer l'invocation de Isa alayhi salam, et Allah Rabbul Izza va envoyer des insectes, fi adhanihim, fayaqtuluhum fi laylatin wahida. Ces insectes vont pénétrer hein, au niveau de leurs oreilles. Dans certaines versions, on parle d'insectes qui ressemblent à des vers ou à des limaces, wallahu a'lam, mais c'est des petites bêtes qu'Allah va envoyer pour les détruire et rentrer de leurs oreilles. Fi laylatin wahida. Layla veut dire nuit. Demain, quoi, inshallah. Fi laylatin wahida. En une nuit, ils vont être terrassés. Dites-moi, connaissez-vous un virus qui tue, qui peut tuer des millions de personnes en une nuit? Même, je ne sais pas, c'est quoi les maladies les plus graves? L'Ebola, les virus les plus destructeurs. Ebola, des trucs comme ça, que l'on a dans l'infia, ça prend pas, ça prend quand même plusieurs jours, je pense, d'accord? C'est pas en une nuit. Mais ça, c'est en une nuit, toute la race, comme on dit, sa race, est terminée en une nuit. Il n'y a plus un Gog, ni un Magog. Shay Ajib. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Quand Allah détruit des gens puissants avec des petits trucs. Qudrat d'Allah, oui.
Il y avait des oiseaux qui portaient des...
Et comment ça s'appelait ces oiseaux? Pairan à Ababil. L'armée de Abraha. Il pense qu'il va détruire la Kaaba pour amener les gens vers sa Kaaba à lui. Un rigolo ça. Il vient avec son armée, il vient avec des éléphants. Éléphants, c'était des animaux que les Arabes n'avaient jamais vus. Vous croisez souvent des éléphants à Makkah Madina? Non. Donc, impressionnant. L'éléphant, normalement, il est censé rentrer sur Makkah et détruire la Kaaba. Comment est-ce qu'Allah détruit l'armée de Abraha avec des oiseaux qui portent dans leur serre une pierre? Et ce n'étaient pas des gros ptérodactyles. Hein? Tu connais ce qu'un ptérodactyle? Ce n'étaient pas des grands oiseaux de dinosaures, des trucs comme ça. Ababil, dis-moi nous, des petits oiseaux. Je ne sais pas comment il dit en français, Ababil. Des petits oiseaux. Et dans leur serre. C'est pas ils portent des grosses pierres, c'est des cailloux. Pensez qu'avec un caillou on peut détruire une armée, si Allah le veut, oui. Et sur chaque caillou de tafsir de Al-Fatiha, de tafsir de Al-Fil, lisez tafsir de Al-Amtara, c'est magnifique dans Ibn Kathir, traduit en français, il écrit dans certaines versions que sur chaque caillou c'était écrit le nom de, j'allais dire son destinataire, le quoi est arrivé, hein, de sa victime. Il dit que quand le caillou touchait la personne, excusez-moi, ça passait par la tête, ça ressortait par le derrière, par l'anus de la personne. Ça le détruisait. Un caillou. Ça, c'est la qudra d'Allah face à des créatures qui ont osé provoquer, qui ont osé porter, qui avaient l'intention de porter atteinte à la Kaaba, au din d'Allah Azza wa Jal. Pour ça aussi, dans un verset, il dit وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Hafez, il répond pas trop, hein. C'est nos tchatchas, nos anciens qui répondent, même au verset du Coran, mashallah. Il dit que, ça, on ne va pas rentrer dans les détails, mais les savants disent que le seul endroit, ça c'est un tafsir, hein, le seul endroit où l'intention de faire une mauvaise action est source de péché, c'est Makka. Parce que si quelqu'un a envie de faire du mal là-bas, a envie de causer du tort aux gens de Makka ou à ce lieu, il va subir le châtiment d'Allah. Alors qu'en temps normal, l'intention c'est, tant que tu n'agis pas, d'accord, tellement Allah protège al-haram al-makki. On revient à ce qu'on disait. Donc de cette façon, ils vont être détruits. Est-ce que c'est fini? The end? Est-ce que tout est, c'est bon, tout le monde est heureux maintenant? Il y a une deuxième problématique. La deuxième problématique c'est quoi? Alors déjà, est-ce que les gens ils vont voir ce qui se passe? Ils ne savent pas. Les croyants qui sont avec, on revient avec Isa alayhi salam, et les croyants, ils sont là, ils savent pas qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Ils savent pas qu'il y a eu ces bêtes qui les ont piquées, ainsi de suite, et qu'ils sont tous morts. Donc, à un moment donné, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je dis juste, je fais Bismillah parce qu'il faut retourner les pages, ils envoient une délégation. Voilà. فيقول المسلمون. Alors avant ça, il explique في أعناقهم. Oui, dans certaines versions, on parle des oreilles. Dans les versions plus sahih, plus authentiques, on parle في أعناقهم. dans leur cou. Et c'est la version qu'on va retenir plus tôt. Dans les oreilles, c'est la première fois aussi que j'ai vu, mais dans les versions plus authentiques, si je ne me trompe pas, c'est une version, je ne retrouve pas le narrateur, mais ça a été authentifié par Cheikh Albani. Si je ne me trompe pas, ça vient de Muslim, Wallahu alam. Mais ça a été authentifié par Albani. Donc, dans la version la plus authentique, on parle de ces créatures, de ces insectes qui piquent au niveau du cou. D'accord ? Il dit que فَيُصْبِحُونَ مَوْتَا لَا يَسْمَعُ لَهُمْ حِسْ. Ils vont mourir d'un coup. On n'entendra même pas un murmure, voilà, chez rien du tout. C'est-à-dire, ils vont être terrassés par cette piqûre-là, par cet insecte. فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ. On prend un peu de temps, Inch'Allah, on va compléter. Et les croyants vont dire أَلَا رَجُلُونَ. Y a-t-il quelqu'un qui se porte volontaire فَيَنْظُرُ مَا فَعْلَ هَذَا الْعَدُو. Et qui va voir qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont, où est-ce qu'ils en sont maintenant, ces fameux ennemis, c'est Ya'juj, Ma'juj. Il dit qu'il y aura une délégation qui va se porter volontaire avec espoir de rétribution. Et lorsqu'ils sortent, فَيَجِدُهُمْ فَيَنْزِلُوا. Ils vont descendre. Donc ça, quand on parle de Nuzul, ça prouve bien qu'ils sont dans un endroit surélevé. Ils descendent. Et lorsqu'ils descendent, فَيَجِدُهُمْ مَوْتَا. Il va constater qu'ils sont tous morts. بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Ils sont morts et entassés les uns sur les autres. Comment ils ont agonisé? Comment ils ont souffert? Et quand vous vous aspergez de bégoin, cafard, regardez comment ils se tortillent et tout. Je ne dis pas que c'est comme ça, mais comment ils sont arrivés? Ils sont les uns sur les autres. Vous avez déjà vu des gens mourir comme ça, vous? Que les gens meurent, ils tombent par terre. Mais il dit, ils sont entassés les uns sur les autres. Et là, les savants disent, voyez également le nombre colossal de cette armée. Ils sont tous morts, mais ba'dhum 'ala ba'd, les uns sur les autres. Fayunadi, il lance l'appel, Ya ma'ashara al-muslimin, oh croyant, ala abshiru, je vous annonce la bonne nouvelle, fa inna Allah qad kafakum aduwakum, Allah azza wa jal, mashallah, Allah azza wa jal, il s'en est pris à vos ennemis, et Allah est suffisant, il vous a protégé du combat, et Allah azza wa jal les a détruits, fa yakhrujuna min mada'inihim wa husunihim, et là les croyants vont sortir, et ils vont voir la bonne nouvelle que l'ennemi commun a été anéanti. Et donc là se pose un nouveau problème. Le nouveau problème, ce sera quoi? Ce sera le cadavre. Les cadavres de ces Ya'juj et Ma'juj qui se mettent à pourrir, ainsi de suite. Il dit que lorsque les gens vont essayer, parce que j'avais oublié, vous savez, il y a tellement de choses à dire, lorsqu'ils vont se réfugier dans des endroits surélevés, ils amènent avec eux Mawashihim, ils amènent avec eux le bétail. Il dit que maintenant, au moment de ressortir, il dit qu'ils essaient d'amener le bétail et que ça va brouter de l'herbe ou autre chose. Il a dit, il n'y a pas un endroit où les animaux peuvent mettre leurs pieds sans trouver la viande pourrie des Ya'juj et Ma'juj, les cadavres en décomposition. Là aussi, les savants disent, imaginez la quantité d'hommes qui composaient l'armée de Gog et Magog. Il n'y a pas un endroit où on peut voir un brin d'herbe tellement le cadavre couvre tout ce qui est visible. C'est un champ de bataille gigantesque. Et là donc se pose le problème, comment est-ce que la vie va reprendre. J'ai le hadith pour une fois, fala yajiduna fil ardi mawdi' shibrin illa mala'ahu, il y a pas un endroit, même pas un tout petit endroit qui n'est pas rempli, qui n'est pas comblé par le cadavre en décomposition. Hada. Et donc à ce moment, ils vont une nouvelle fois s'orienter vers Isa alayhi salam. Ils vont demander doua. Ils vont demander à Isa alayhi salam de demander à Allah azza wa jal d'invoquer Allah pour envoyer sa nusra. Et avant d'arriver à ce moment-là, il y a une petite parenthèse également, et ça on l'avait expliqué, me semble, la dernière fois. Il est dit dans certaines versions, que yuqaduna min aslihatihim ba'da halakihim sab'a sinin, dit que les musulmans vont récupérer leurs armes qui sont faites de bois. Et pendant 7 années, les musulmans vont se chauffer, vont utiliser ce bois-là pour se chauffer, ou bref, comme combustible, pendant 7 années. Et les savants disent, imaginez le nombre d'armes qu'il y avait sur ce champ de bataille, que pendant 7 ans, ils ont la possibilité d'utiliser ces armes-là pour faire du feu. Et certains savants, et là je rejoins entièrement leur avis, ils disent, ben voyez, c'est une preuve de plus que nous reviendrons vers des armes classiques, d'accord. Je ne sais pas si vous arrivez à faire un barbecue avec Kalachnikov ou avec un bazooka ou autre chose, donc c'est vraiment des armes, on va dire, plus classiques. Et donc on revient, donc ils vont يستعينون ils vont demander droit à Isa alayhi salam pour qu'Allah azza wa jal débarrasse le dunya du cadavre de Ya'juj wa Ma'juj. Et à ce moment-là, j'ai retrouvé. Fayaqulun namutu minan natan. Ils vont se plaindre à Isa alayhi salam que nous allons suffoquer à cause de cette odeur pestilentielle, cadavre en décomposition. La vie ne peut pas reprendre. Fayad'u Allah fayab'athu wabilan min al-matari faj'alahu sayla. Allah azza wa jalla va envoyer une pluie qui va laver leur cadavre. Donc ça c'est une version. Ça c'est une version d'Ibn Asakir. Dans les versions plus authentiques encore, des versions des Kutub Sitta, on parle d'oiseaux qu'Allah azza wa jalla va envoyer avant la pluie. Donc ça c'est une version encore plus authentique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On retrouve Hadith Imam Muslim. Donc ça vient de Sahih Muslim. فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ. Allah Azza wa Jal va envoyer des oiseaux avec des longs coups. Et ce mot qu'on ne connaît pas trop, dans Nawawi, Sharh Nawawi, dit que ce sont les chameaux de Khorasan, les chameaux de la région d'Iran. Je ne sais pas s'ils ont toujours des chameaux à notre époque. Des chameaux qui avaient des coups particulièrement longs. Un chameau a un long cou, mais les chameaux d'Iran, peut-être à cette époque, le cou était encore plus long. D'accord ? Il y a des oiseaux qui ont un coup très long. Maintenant, on ne peut pas comparer à ce que c'est quoi. C'est des pélicans, est-ce que c'est des... Ça, Allah, il n'y a pas nécessité de trouver. Allah Azza wa Jal va envoyer donc ces oiseaux qui vont, donc, on va dire, فَتَطْرُعَهُمْ حَيْتُ شَاءَ اللَّهُ, qui va récupérer les cadavres et les jeter où Allah Azza wa Jal leur ordonne. Et ensuite, Allah Rabbul Izza, ثُمَّ يُرْسِلُ مَطَرًا. Allah va envoyer une pluie. Et cette pluie va laver toute la surface où il y a le cadavre. Et Allah va laver, le terme c'est rousse, va laver ce dunya, hatta yatrukaha kazalaqa, jusqu'à ce que cette terre devienne pure, brillant, on pourrait dire. Et zalaqa, ils disent que c'est quelque chose qui ressemble à un miroir, quelque chose de resplendissant. Et cette purification de la terre, elle est au sens propre, laver des cadavres, mais également au sens figuré. Parce que cette pluie sera une pluie qui va laver le dunya, mais sera une pluie bénéfique également. Une pluie synonyme de baraka. Parce qu'à ce moment, lorsque cette pluie va toucher ce dunya, la terre deviendra extrêmement fertile. Et tout ce qu'on peut penser, Bidna pourra pousser. Dans certaines versions, là on enchaîne, on emboîte pour terminer, il dit qu'il suffit que quelqu'un prenne une graine et il jette sur le mont Safa pour que l'arbre fruitier pousse. Alors qu'on connaît que dans ce mont Safa, c'est pas des endroits où on peut pousser, on peut planter des graines ou autre chose. Il dit tellement la terre deviendra fertile à cette époque, parce que lorsqu'on parle de la destruction de Ya'juj ou Ma'juj, de Gog et Magog, on pourrait dire que c'est une renaissance. C'est la période la plus prolifique de l'histoire de l'humanité, peut-être au même titre que la période sous le Imara de Omar ibn Abdel Aziz, où il y avait la justice qui régnait partout. À l'époque de Isa alayhi salam, ce sera encore plus fort. Ce sera les périodes les plus magnifiques de l'histoire de l'humanité, où il y aura une baraka exceptionnelle. Alors si vous voulez qu'on donne les détails, il faut nous laisser un petit peu de temps. Autrement, on peut enchaîner encore plus vite. On parle également d'une période de 7 années de baraka. Une période de 7 ans. Dans certaines versions, on parle de 7 années de baraka. On a retrouvé le hadith dans lequel il est dit, hadith authentique, rapporté par Abu Huraira de Ad-Daylami, qui est authentifié par Cheikh Al-Bani, dans lequel il est dit, « Touba li'aïshin, mashallah, bonne nouvelle aux personnes qui vont vivre à cette époque. Yu'dhanu lis-sama'i fil qatr, la pluie va tomber en abondance. Wa yu'dhanu lil-ardi fin nabat, et la terre aura reçu l'ordre d'Allah Azza wa Jal de donner le maximum d'arbres fruitiers de plantation. Vous vous rappelez à l'époque de Dajjal, 3 années de disette. Une première année, le tiers de la récolte mondiale est retenu. La deuxième année, deux tiers. La troisième année, l'intégralité. Par ordre d'Allah Azza wa Jal. Pour préparer le contexte à la venue de l'Antéchrist qui va apporter la nourriture à profusion pour celui qui veut l'accepter comme Dieu. Épreuve, ibtila, fitna. Et c'est Allah qui décide que la pluie ne tombe plus, la terre devient stérile. À ce moment-là, c'est le contraire. Allah ordonne aux cieux de pleuvoir et à la terre de faire pousser tout ce qui est possible. Tout dépend d'Allah Azza wa Jal. La force de Gog et Magog de Dajjal, ça dépend d'Allah. Les cieux et les terres, ça dépend également d'Allah Azza wa Jal. Et là, on trouve la version Hatta, même si tu plantes Habbaka ala Safa, la Nabat. Si tu plantes une graine sur le mont Safa, cette graine-là, elle va fertiliser, elle va donner, elle va pousser, et ainsi de suite. Et puis, on va passer un petit peu sur les descriptions de Baraka à l'époque de Isa alayhi salam. Pas mal de textes qui expliquent comment le dunya, l'humanité, va connaître une période de bénédiction comme jamais elle n'en a connue. Et dans certaines versions, on parle même de pèlerinage de Umra après la sortie des Ya'juj ou Ma'juj. Et ensuite, nous arrivons au décès de Isa alayhi salam. Et on ne va pas revenir sur le décès de Isa alayhi salam, parce que ça, on avait déjà expliqué dans le signe de Qiyama, quand on avait expliqué le retour de Isa alayhi salam. On avait emboîté un petit peu avec Gog et Magog, on avait gardé pour cette fois-ci. Et après, si je ne me trompe pas, on avait parlé de 7 années de Isa alayhi salam. Après une certaine période, Allah Azza wa Jalla, et Isa alayhi salam, il va vivre comme un ummati, comme une personne tout à fait normale. Il va même fonder une famille, et à un moment donné, il va mourir. Parce que Allah a décrété que personne, que kullu nafsin dha'iqatul maut. Et le seul qui n'était pas encore mort, c'était Isa alayhi salam. C'est une des hikmas pour laquelle c'est lui qui revient à la fin des temps et non pas Moussa ou Ibrahim alayhi salam, parce que lui, il a été élevé vers les cieux et il n'est pas mort. Et donc, quand il revient à la fin des temps, il accomplit sa mission et à la fin, il doit mourir et être enterré comme tout être humain. Et là, l'humanité va perdre son amir, va perdre son chef, celui qui était leur commandant en la personne de Isa alayhi salam. Et là, la situation va chuter peu à peu. Allah va reprendre l'âme des croyants. Ça, on va voir la prochaine fois. On va voir le soleil. Qu'est-ce qui va se passer avec le soleil? On va voir les autres signes également. Et on va voir surtout, la prochaine fois, on va parler de Indithar al-Islam. Comment Allah Azza wa Jal va reprendre tout ce qui est propre, tout ce qui est intrinsèque, tout ce qui fait les forces vives de notre religion pour qu'il n'y ait plus un croyant sur ce dunya, afin que la bête puisse sortir et afin que le qiyama, la fin du monde, puisse avoir lieu. Donc, ce qu'on va voir, Inch'Allah, la prochaine fois, l'objectif, c'est de terminer les signes de la fin, les grands signes de la fin des temps avant le mois de Ramadan, et après, on va voir qu'est-ce qu'on fait. On pourrait voir, Inch'Allah, peut-être rester de l'aqidah ou alors passer tout à fait à autre chose. Ce qu'on va voir la prochaine fois, Inch'Allah, durus al-Islam. L'islam qui va être repris par Allah Azza wa Jal de la surface de la terre. On va parler du Coran, on va parler de la ville de Mecca, de la Kaaba, de Hajj al-Aswad et du Hajj. Tout ça, ça va être repris par Allah, ça va être abandonné. Le Hajj va être abandonné et les autres choses vont être reprises par Allah, ces choses qui sont vénérées dans notre dîn. Également, on va parler des trois khusufat, des trois séismes, des trois grands tremblements de terre. Deux. On va parler également, Inch'Allah, de Dukhan, d'une fumée. On va voir également le feu du Hijaz et la fumée, on va voir ces deux choses différentes. Et on va parler également de Adab, cette bête qui va sortir à la fin des temps. Cinquièmement, on va voir, vous dites comment faire tout ça en une seule fois, on trouvera Inch'Allah le temps, Ar-Rih, le vent qui va reprendre l'âme des croyants sous leurs aisselles, et qu'est-ce qui va précipiter la Jahiliya, le retour vers les périodes d'ignorance. Vous avez déjà entendu parler du mot Jahiliya, d'ignorance, les périodes pré-islamiques, où les gens vivaient comme des sauvages. Ces époques-là vont revenir après que le vent, cette brise, aura repris l'âme de chaque croyant. C'est-à-dire, là, on va arriver à une époque où il n'y a plus une personne qui dit Allah de ce dunya. Et là, les gens vont redevenir, comme on a dit, comme des barbares, comme des sauvages, et ainsi de suite. D'accord? Et là, il y aura l'atteinte à la Kaaba. On va revenir encore là-dessus, Inch'Allah. Et il y aura la destruction finale. Il y aura le feu à la fin des temps. Et il y aura la destruction finale de ce dunya. Et puis, on passe à une autre étape, l'étape de la résurrection, pour que le monde se reconstitue d'une autre façon. Qu'Allah Rabbul Izzah donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Qu'Allah nous pardonne s'il y a eu des erreurs dans les narrations, dans les explications, si parfois les termes ont été mal choisis, si on a mal expliqué, s'il y a eu des manquements donc dans l'explication de ce, de cette branche, hein, de ce pilier des signes de la fin des temps qui est Ya'juj wa Ma'juj, et qu'Inch'Allah on comprend l'essentiel qu'il faut retenir à travers ce grand signe. On voit surtout là la qudrat d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, wa alhamdulillahi rabbil alameen. Jazakum khair.